Quoi dire? Bonne fête des pères. Ben, c'est au papa. Depuis plusieurs semaines et mois que je sais que j'avais la fête des pères, et dimanche passé, c'est présenté un événement que j'anticipais, mais que j'espérais pas, mais quoi faire? J'ai demandé conseil à plusieurs. Qu'est-ce que je fais? Et le nombre de réponses fut fulgurant. Personne ne m'a répondu. Personne ne veut s'impliquer. Alors, je me sens comme une grosse cible vivante ce matin. Et je suis à peu près convaincu que je suis la prochaine personne à recevoir les outrages. Mais je commencerai comme ceci. Un temps de crise et de difficulté est un test et également une démonstration claire de ce que nous croyons réellement. Martin Lloyd-Jones. Et je ne vous cache pas mes sentiments aujourd'hui, j'étais un peu à l'envers, j'ai mijoté des dizaines de fois, j'ai moi aussi exercé mon ministère de regarder le plafond et à ne pas dormir. Et je pense que plusieurs personnes ont besoin d'être averties, d'un côté. De l'autre, beaucoup de personnes ont besoin d'être restaurées, réconfortées, encouragées. Et quoi faire? Mais chose certaine, c'est que chacun d'entre nous a besoin de regarder notre cœur. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et la situation de notre assemblée, et si on souffre du syndrome de l'autruche, on ne voudra pas en parler, mais moi, j'en souffre pas. Et je vais être clair, si on regarde le portrait en face, la situation actuelle risque de créer plusieurs choses. Et dans ma réflexion, j'aimerais en nommer quatre. Quatre choses qui risquent d'être créées dans une situation de crise comme qu'on vit. Un, le manque d'amour. Deux, les divisions. Trois, le refus de pardonner. Et quatre, la négligence du péché et de la sainteté. En 1981, Ralph Schalis est venu faire une série de conférences à Montréal et Drummondville. Et il a dit vraiment, je réécoutais ça cette semaine, et puis il a dit quelque chose à un moment donné qui m'a frappé. Il dit, tu sais, en Occident, Ralph Schalis est un missionnaire, il a implanté 50 églises en Algérie puis en Afrique du Nord. Il a dit, tu sais, en Occident, on a tendance à mettre très, très grave certains péchés, tu sais, l'immoralité, fausse doctrine, tu sais, ça revient, ça, c'est le top 2, là, tu sais. Et là, on met l'emphase là-dessus. Mais, tu sais, la colère, la rancune, ça pour nous, on laisse passer sous silence. Et puis là, il s'est mis à lire Galates, chapitre 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche. Et là, il a dit d'un ton très, très calme, on est tous d'accord avec ça, là. Mais dis, continuons. Idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Et puis là, il a ajouté, il dit, en Inde, notre top 2, nous autres, il dit, c'est en Inde, c'est pas si... Mais il dit, dis une parole. Sous l'effet de la colère, tu perds ton témoignage pour la vie. Culturellement, on met l'emphase à certaines places. Et puis là, il a terminé en disant, « Avez-vous remarqué qu'ils sont tous dans la même liste? » Frères et sœurs, on a un véritable défi. Ça va refléter le ton de notre cœur. Et oui, il faut mettre des avertissements, mais en même temps, il faut restaurer. Il faut prendre le temps d'encourager. Et j'aimerais simplement aujourd'hui regarder dans la parole de Dieu le récit d'un homme de Dieu qui a fait face à vraiment un péché dans sa vie qui l'a amené à tout abandonner. Et Dieu veut aller chercher. Et on va regarder le récit de Moïse. Je vous invite à tourner dans Exode chapitre 3. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a été brisé. Exode chapitre 3. Moïse, verset 1, faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. Pourquoi? Pourquoi Moïse qui est là? Il est éduqué dans le cours du Pharaon. Il a reçu la plus grande instruction qu'il ne pouvait pas avoir. Les Actes des Apôtres nous dit avec l'Épître aux Hébreux qu'il a été éduqué dans toute la sagesse. Et puis là, on le voit dans le désert avec son beau-père, avec un troupeau de brebis. Il connaissait probablement le récit de la création, le récit des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Et il savait que le temps approchait à la quatrième génération. Et il était à la quatrième génération, là où Dieu allait délivrer son peuple. Et lui, qui pensait faire la volonté de Dieu, décide de mettre en œuvre le plan de Dieu. Puis pour défendre un Hébreu, il tue un Égyptien. Puis il s'en va dans le désert. Et ça fait 40 ans qu'il tourne dans le désert. Et Moïse a dû apprendre, en fin de compte, qu'il ne pouvait pas faire la volonté de Dieu. Même si vraisemblablement il croyait qu'il était capable de faire la volonté de Dieu, après tout, si on écoute le texte, les premiers chapitres, écoutez le texte, il semble que Moïse semble se péter les bretelles. On entend les bretelles. Tu sais, moi, je vais faire la volonté de Dieu. Et Dieu veut le briser complètement. Il passe 40 ans dans le désert. Avez-vous déjà réfléchi à ce que Jésus a passé 40 jours dans le désert? Joseph a passé 13 ans en prison et en esclavage avant de pouvoir faire le travail de Dieu. Jean-Baptiste a passé toute sa jeunesse jusqu'à l'âge de 30 ans à errer dans le désert avant de pouvoir faire le travail de Dieu. Voyez-vous, quand on regarde l'histoire, il n'est pas rare de voir des personnes qui veulent changer leur génération, qui veulent vraiment faire quelque chose de valable pour Dieu. Et il semble qu'ils sont complètement brisés. C'est comme s'il fallait qu'ils passent par une expérience désertique de mort. On n'a pas de désert au Québec. Mais il y a des déserts spirituels. Et Dieu veut amener ces hommes dans un état dans lequel ils expérimentent le fait qu'ils sont incapables par eux-mêmes de faire quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui a dit, la vie de Moïse se résume en quatre sections de 40 ans. 40 ans à penser qu'il était capable de le faire, 40 ans à penser qu'il était un bon à rien, et 40 ans à découvrir ce que Dieu peut faire avec un bon à rien. Continuons à lire. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et là, Dieu attire son attention. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse! Moïse! » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où qui coule le lait et le miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. J'ai toujours aimé le récit de Moïse. Dans ma jeune adolescence, et même plus vieille, on file toujours un peu bizarre à l'adolescence. Et des fois, j'écoutais au moins une fois par année le film « Les Dix Commandements ». Et après avoir écouté, j'écoutais ça l'été. Parce que je pouvais mettre mes sandales et aller marcher dans le bois. Et là, on file comme Moïse. Hein? Là, on file l'homme de Dieu qui marche et qui vit l'oppression du peuple. Et il y a toujours ces paroles de Ralph Chalice qui me reviennent en tête, où ce qu'un jour il a dit à un jeune homme qui demandait conseil, et puis et Ralph Chalice a dit à ce jeune homme, il dit, passe une journée en entier autour d'un arbre. Et le jeune homme a écouté Ralph Chalice. Alors moi, j'ai fait la même chose, je partais avec mes sandales, et je me mettais un grand manteau, tu sais. Et là, je partais dans le bois, je me mettais autour d'un arbre. Mais il faut toujours amener une Bible, hein, parce que c'est une expérience très traumatique. Et puis, le jeune homme, il revient voir Ralph Chalice quelques temps après, puis il dit, « Hey, Ralph, j'ai fait ce que tu m'as demandé. » Oh, il dit, « Ça doit être une expérience incroyable. » Il dit, « Ah, oh. » C'était épouvantable. « Ah oui, il dit, comment ça? » Il dit, « Toute la journée, j'ai fait face à moi-même et mon cœur. » Et là, j'ai une place secrète que je vais dans le bois. Quand je vais là-bas, je suis face à moi-même. Et il me semble qu'en silence, avec les écureuils, on est face à nous-mêmes, face à notre péché. C'est quelque chose de terrible. Et Moïse, vraisemblablement, est revenu à cause départ, au point zéro. Puis je pense que pendant 40 ans, dans le désert, on ne peut pas ne pas faire face à notre péché. Si 3 heures autour d'un arbre nous amènent invariablement à penser à notre cœur, 40 ans dans le désert, oubliez ça. Je suis convaincu. Vous pouvez l'essayer d'un pit de sable. Où Jésus est allé pour combattre le péché dans le désert. Et il semble qu'on entend deux choses. Une voix qui dit, « Ah oui, mange-le le pain. » Puis de l'autre côté qui nous dit, « Non, t'es le Fils de Dieu. » Tu sais, il me semble qu'il y a toujours ces deux voix à l'intérieur de nous autres. Et je m'identifie facilement avec Moïse. Et j'imagine que Moïse, il a remis en question tout. Dieu, t'as fait des promesses, t'es où? Le temps est dépassé un petit peu, t'avais dit 400 ans, on est à peu près à 430 ans, puis t'as pas répondu encore. Et là, j'imagine que Moïse a tout remis en question à travers la prière. Et je crois que pendant cette période, Moïse a expérimenté quelque chose de particulier. Je suis convaincu qu'il a expérimenté ce qu'on peut appeler la culpabilité. On peut voir ça dans la réponse de Moïse. Dieu appelle Moïse. Moïse, me voici. Je t'envoie. Mais qui suis-je? Et puis, il donne deux raisons. Je suis incompétent. Je n'ai pas l'autorité pour parler à Pharaon. Et Moïse doutait de son habileté à faire face à la situation. Et c'est le genre de culpabilité qui nous amène finalement à un arrêt. Ça nous empêche d'avancer. En fait, ce genre de culpabilité, d'après ce que je peux comprendre avec le péché puis son exil dans le désert, ou ce qui tourne en rond, la culpabilité, c'est s'accuser soi-même. Et si ça revient, c'est redondant, comme que je pense que c'est. En fait, son problème à Moïse, ça semble être la difficulté à pardonner, à se pardonner. Je pensais que j'étais capable, puis je n'ai pas été capable, puis je suis un incompétent. Puis là, il est au point zéro. Il a fait un péché qu'on qualifie de grave. Il a tué quelqu'un. David, il a fait un péché qu'on qualifie de grave. En fait, pas juste un, parce que lui, il a commis l'adultère, il a tué quelqu'un, puis le peuple est entré en jugement. Et regardez le principe que je suis en train d'exposer dans Psaume 51, le psaume de repentance de David au verset 5. « Car je connais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. » C'est ça la culpabilité. Et Dieu pardonne. Il faut comprendre ce pardon. À un point tel que la situation qui est engendrée cette semaine peut-être va amener des personnes à voir constamment leur action devant leurs yeux. Et quand on étudie le sujet aussi complexe que le pardon dans la Bible, si on fait cette étude, prenez une concordance. J'ai fait l'exercice et le mot « pardon » revient, je pense qu'il y a 2 pages et demie. Et la majorité des occurrences du mot « pardon » dans la Bible revient dans un contexte particulier, les sacrifices. C'est Dieu qui pardonne. Pourquoi? Parce que c'est le même modèle qui est véhiculé dans l'Ancien Testament que Jésus va encore garder dans le Nouveau Testament à travers son propre sacrifice. C'est le modèle qu'il veut nous laisser. Tu sais, David, là, tu sais, gros péché, tu sais, puis là, grosse affaire. Puis si on lisait le texte dans 2 Samuel 12, à un moment donné, le prophète Nathan arrive devant David et puis il dit simplement ça. Dieu te pardonne. Hé! Hey, wow! Tant peu. Adultère, peuple est en jugement, t'as tué quelqu'un. Et là, en fait, il est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas une personne sur cette planète contre qui t'as péché. Et là, Nathan arrive puis il dit, Dieu te pardonne. Et puis là, David qui dit, mon péché constamment devant toi, mais il continue en mentionnant que c'est contre toi seul que j'ai péché. C'est quoi le péché? C'est premièrement une offense envers Dieu. Vous vous mettez en colère, la personne la plus offensée, c'est Dieu. Vous tuez quelqu'un, la personne la plus offensée, c'est Dieu. Vous gardez rancune, la personne la plus offensée, c'est Dieu. Si vous refusez de pardonner, la personne la plus offensée, c'est Dieu. Et le modèle de pardon qu'il nous laisse, il me semble qu'il comprend au moins 2 choses. La première, un désir et une volonté de pardonner. Deuxième, un désir et une volonté de ne plus se souvenir. Dieu pardonne. Et s'il pardonne, je n'ai pas le droit de ne pas pardonner. Le pardon, c'est une activité de notre volonté que je dois constamment me rappeler parce qu'il risque de revenir souvent en avant de mes yeux. Dans la situation actuelle, je me pose une question. Est-ce que notre situation est créée parce qu'on a mis en oubli comment Dieu nous a pardonné? Un désir, une volonté de pardonner? Un désir, une volonté de ne plus se souvenir? Le pardon dans la Bible, c'est une promesse. Regardez. Je prends des cas graves. Regardez Jean chapitre 8, la femme adultère. On connaît tout ce récit. Et là, les accusateurs, ils viennent, puis ils disent, regarde, elle prend un flagrant délit d'adultère. On a des témoins, là. On a des témoins. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il faut faire avec elle? Et là, Jésus qui commence. Et puis là, à un moment donné, après sa réponse, il dit, celui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre, et puis là, tout le monde s'en va. Et puis là, il arrive des passages, Jean 8, 10. Alors, Jésus se redressa et dit à la femme, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il pas condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. désormais ne pêche plus. Voyez-vous, on a tendance à inverser ce que Jésus dit. Et il commence avec la promesse. Et l'ordre des mots est important. Il commence avec la promesse, « Moi aussi, je ne te condamne pas. » Mais minimise jamais le péché. « Va, ne pêche plus. » Voici le commandement. Inversons pas. Et toujours est-il que Moïse est dans ce désert et Dieu appelle son serviteur à travers un buisson. Et ce que Moïse avait vraisemblablement besoin, c'est de connaître Dieu et de connaître que Dieu l'accepte et le pardonne. Dieu veut tout nous utiliser. Oui, on peut vivre des désespoirs. Oui, on peut vivre des craintes, de la culpabilité. Mais limitons pas Dieu. Il peut faire sortir à travers nos situations des choses incroyablement merveilleuses auxquelles on ne s'attend pas. Moi, je prie pour un réveil. J'aimerais voir un réveil au Québec dans ma vie. Mais si on écoute l'histoire des réveils, puis on étudie les réveils à travers l'histoire, ça commence toujours et invariablement par un réveil dans l'Église. Verset 4, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse! » Il répondit, « Me voici. N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » J'aimerais vous suggérer que c'était du sable bien ordinaire, un buisson bien ordinaire. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit un chapitre dans un livre, ça s'appelait « Dieu aurait pu utiliser n'importe quel buisson ». Il a pris un buisson bien ordinaire, commun, comme toutes les autres. N'importe quelle situation dans notre vie peut être une place où Dieu se révèle. C'était le principe du chapitre. Et ce qui fait que cette poussière était sainte, c'est parce que Dieu était présent. Ta présence du Dieu de l'univers, trois fois saint. Il aurait pu dire à Moïse, « Tu vois, Moïse, le meurtre que tu as commis, puis tous les péchés que tu ne veux pas mentionner dans ta vie, là, en fait, te disqualifie. Moi, je l'ai vu. » Puis après 40 ans, effectivement, tu as la bonne réflexion, Moïse, t'a disqualifié. Tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'es pas crédible. C'est pas ça qu'il a fait. Je ne vais pas faire allusion nécessairement aux anciens. En passant, il n'y a personne qui a mentionné avec deux ou trois témoins des péchés. Fait qu'on n'a juste pas reporté un mandat. Faisons attention à ce qu'on dit. Il n'y a personne qui a dit que ce n'était pas des hommes de Dieu. On n'a pas reporté un mandat. Alors faites attention sur Facebook et toutes ces choses-là. Dieu n'accuse pas Moïse malgré ce qu'il a fait. Accusons pas aussi nos hommes dans l'Église. Mais la sainteté de Dieu ne minimise jamais le péché. Parce que Moïse attendait les promesses d'un réconciliateur. Et Dieu dit, j'ai vu les souffrances, je m'en viens pour voir, et c'est toi que j'ai choisi. Et c'est toi que j'ai choisi. Et il commence par lui rappeler qui il est. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis le Dieu de la promesse. Et oui, même si ça fait 400 ans que j'ai fait une promesse, je suis ici, je ne vous ai pas oublié, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je m'en viens répondre à ce besoin. Dieu s'identifie lui-même avec le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et si on se demande pourquoi il se révèle de cette façon, c'est qu'il dit, mettons au chapitre 6, verset 2, Dieu parle encore à Moïse et lui dit, « Moi, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom. » Il voulait se révéler d'une façon qu'il n'avait jamais fait encore, d'une façon intime, par son nom, par qui il est. Et de là va découler tout le reste. Et le point central de la réflexion, et je pense que c'est ici le point de départ de toute notre réflexion, par où commencer, par où regarder. Là. Tu sais, quand on jongle le soir et qu'on pose plein de questions, commençons par qui est Dieu? Qui est Dieu? Recherchons le visage de Dieu dans la situation. Moïse va poser une question à Dieu. Une. Moïse dit à Dieu, verset 13, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, qu'est-ce que je vais dire? » Et Dieu donne trois réponses. « Je suis celui qui suis. » « Je suis » m'a envoyé vers vous, les deux versets 14 et au verset 15, « L'Éternel, le Dieu de vos pères. » « Je suis », c'est un nom propre. C'est pas un pronom personnel. C'est un nom propre. C'est quoi ton nom? « Je suis ». En hébreu, c'est Yahweh, YHWH. Là, tout le monde a vu le tétragramme. Ce nom est révéré chez les Juifs. C'est comment qu'il s'est révélé. C'est le nom le plus commun pour Dieu dans l'Ancien Testament qui revient à 6828 reprises. Ça en a fait. Mais en même temps, Dieu voulait, à travers son nom, montrer son caractère. Je suis, il n'y en a pas d'autre. Je ne suis pas une petite divinité en quelque part là, parmi toutes les autres que vous voyez en Égypte. Là. Je suis. Et un des objectifs de Dieu dans cette rencontre, c'est de révéler qui il est. Et qu'est-ce qu'il veut dire? « Hey Dieu, c'est quoi ton nom? Je suis celui qui suis. » Qu'est-ce que ça dit, ça? Et plus que je réfléchis à ce nom, « Je suis celui qui suis », il me semble plus ça devient merveilleux. Plus ça devient intéressant. Et j'aimerais faire quelques réflexions sur le nom de Dieu. « Je suis ». Évidemment, je n'ai pas la prétention de tout éplucher, là, ce que ça veut dire, mais simplement quelques réflexions. Implication et application de qui est Dieu. Premièrement, je suis. Dieu existe. Je le sais que je suis dans une église et que la grande majorité d'entre vous va se poser la question, pourquoi qu'il mentionne que Dieu existe? On le sait. C'est inutile de mentionner que Dieu existe. Oui, mais on vit souvent comme s'il n'existait pas. Je suis, ça démontre et ça nous parle de son indépendance. Il se révèle. C'est lui-même qui décide de se révéler à nous. Il ne se révèle pas, je ne peux pas le connaître. Je suis. Je suis toujours le même. Deuxièmement, Dieu existe. Deuxièmement, Dieu ne change pas. La raison pour laquelle les gens changent, c'est la faiblesse de nos convictions. Et le fait qu'il y a des circonstances à l'extérieur qui viennent nous mettre une pression et qui nous fait changer d'idée d'un bord puis de l'autre. Mais pas pour Dieu. Il n'y a pas de circonstance qui surprend Dieu. Il n'est pas surpris par la situation de Moïse, là, que, ah oui, ça fait 400 ans, vous êtes en esclavage, puis tout ça, puis là, bon, ben, tabarouette, le peuple, il souffre après, ah ben, il faudrait bien que je réponde. Il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris dans notre situation. Il n'est pas moins souverain qu'il l'est. Et remarquez qu'à plusieurs reprises dans notre texte, il nous dit, « Je m'en viens pour voir, j'ai vu, je vais pour voir. » Voir et pour voir. On peut donc mettre complètement notre confiance en Dieu. Il ne change pas. Et mon troisième point, l'objectivité est cruciale. Il demande à être accepté tel qu'il est. Autrement dit, ce que vous pensez par rapport à Dieu, ça ne change pas vraiment grand-chose. Dieu est. Il veut être adoré comme ça. Je suis l'Éternel. Vous allez, voici comment je veux être invoqué de génération en génération. On doit l'accepter. Mark Dever, une illustration que j'ai déjà utilisée, donnait une conférence, et puis à un moment donné, il fait une proposition sur Dieu. Il dit « Dieu est comme ça, voici le passage de la Bible ». Et son opposant a répondu « Moi, j'aime penser Dieu comme quelqu'un qui pardonne, qui aime, qui est gracieux, qui est amour, mais pas qui est en colère, puis tu sais, le péché, tu sais, on met ça de côté. Moi, j'aime penser Dieu comme ça. » Et Mark Dever, il a répondu, « Merci de nous parler à quel point que toi, tu penses. Mais on ne veut pas savoir ton idée. On veut savoir qui est Dieu. » C'est ça l'important. On ne veut pas savoir tes désirs. On veut savoir qui est Dieu. Et les désirs vont se conformer à qui est Dieu. Et ce qui m'amène à mon quatrième point, nous devons nous conformer à Dieu et non pas lui à nous. Le but de Dieu, c'est l'adoration, verset 12. Il s'en vient délivrer le peuple. Dieu dit, « Je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte. » Et là, ce n'est pas une suggestion, là. Tu vas faire sortir d'Égypte. Vous rendrez un culte. La preuve qu'on sait que Dieu agit, c'est l'adoration qu'on y donne. Voici mon nom. Et mon nom détermine, au verset 15, comment je vais être adoré. C'est la découverte de Dieu qui a permis à Moïse humblement de voir comment Dieu agissait à travers lui. Et on a tous besoin d'adorer le Dieu vivant de l'univers. Il est important de réfléchir sur Dieu. Moïse avait besoin d'une vision de Dieu, nous aussi. Moïse avait ses petites objections, son incompétence. OK, Dieu répond, « Je suis avec toi. C'est pas toi qui vas travailler, c'est moi. Je manque d'autorité. » Dieu a répondu, « Je vais délivrer. » C'est pas toi, Moïse. La question, c'est pas toi. Exode chapitre 3 nous raconte beaucoup moins l'histoire de Moïse que l'histoire de Dieu qui agit à travers un homme nowhere sur la planète dans un désert qui fait paître des brebis. Et il est évidemment facile de faire la réflexion avec notre contexte actuel. Et je crois qu'il faut garder Dieu au centre, la parole de Dieu au centre et l'adoration de Dieu découle toujours dans la Bible pour un amour vers le peuple de Dieu. Il a dit à Moïse, « Tu vas être le serviteur de mon peuple. Tu vas le délivrer, tu vas l'aimer, tu vas les amener en adoration. » Et ça ne change pas dans le Nouveau Testament. L'homme de Dieu, c'est un homme qui aime le peuple. 1 Jean, réalisez 1 Jean, c'est le test de l'amour. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. On aime Jean. Ah oui, l'apôtre de l'amour. Il n'y a pas de parole plus dure que ça. T'aimes pas, t'es pas de Dieu. Ultimement, l'appel que Moïse a reçu de Dieu a débouché sur une mission. On doit découvrir, pour notre Église, pour notre génération, je crois qu'il est temps de tout remettre en question. De tout remettre nos préférences en question, de tout remettre nos pensées, nos idées, nos émotions en question. Faisons une étude de notre cœur. Sondons notre cœur, chacun d'entre nous. Dieu veut des hommes et des femmes de Dieu qui vont marcher humblement pour lui. Il est facile de dire, là, lui n'est pas humble, lui est ci, lui est ça. C'est facile, ça. Mais si on se regarde, avec mes préférences, puis mes, tu sais, l'importance de souligner, de méditer sur la personne de Dieu dans le contexte que nous avons. Regardez une citation que j'ai trouvée. Donald McNair, qui est un conseiller dans une grosse université, lui, sa job pendant 30 ans, c'était d'étudier les églises en santé. Qu'est-ce qui fait qu'une église est en santé? Et regardez la réflexion qui est importante à se poser par rapport à Dieu. La question centrale que vous aurez à répondre, évidemment, dans votre Église, est celle-ci. Est-ce que l'Église est spirituellement vivante? Dieu fait-il un travail parmi ses gens? Y a-t-il des changements de vie, des incroyants qui viennent au Christ, au nom de Jésus? Ou est-ce que c'est une Église sans vie? La vie peut être l'aspect le plus critique d'une Église. C'est l'aspect qui indique le plus directement la santé de l'Église. La vie indique la présence de l'ingrédient essentiel, à savoir la présence de Dieu. Et j'aimerais vous encourager en terminant. Des questions importantes qu'il faut se poser. Si on n'est pas en santé, comment le devenir? Il faut réfléchir à ça. Et c'est peut-être parce qu'on a perdu notre premier ingrédient au détriment de nos préférences. Mais écoutez le psaume 9, 11. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent éternel. » Yahweh, je suis celui qu'on étudie. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. » Dieu existe et ne change pas. On peut et on doit mettre notre confiance en lui et se conformer à ce qu'il demande. Et ce qu'il demande, c'est un peuple qui loue son nom. Quand l'épreuve vient, on comprend que mettre notre confiance et notre foi en Dieu est premièrement une affaire de volonté et ne dépend pas de mes sentiments. Hier soir, j'ai trouvé une bonne citation, Jerry Bridge a dit, « J'ai choisi de faire confiance à Dieu, mes sentiments finiront par suivre. » J'ai choisi de faire confiance à Dieu, mes sentiments finiront par suivre. Frères et sœurs, vous ne perdez pas votre temps à méditer sur la parole de Dieu. Vous ne perdez pas votre temps à apprendre à connaître Dieu. Le premier commandement, ce que le Seigneur nous a laissé, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et vient celui qui est le deuxième, « Tu... » Exact. « Aime Dieu humblement. Pardonne comme il t'a pardonné. Aime comme il s'est donné. Ne minimisez jamais le péché, car Dieu est saint. Réjouissez-vous en Dieu, sachant qu'il ne vous abandonne pas. Persévérez dans l'amour du peuple de Dieu, sachant que l'épreuve mettra en évidence ce que vous croyez profondément. N'élevez pas un homme ou des hommes, sachant que Dieu est encore plus merveilleux et qu'en lui seul, je peux avoir une confiance inébranlable. Investissez dans les relations d'amour avec vos frères et vos sœurs dans l'Église, car cela est sain, bon, agréable et découle naturellement de l'amour que nous avons premièrement pour Dieu. John Piper a dit ceci, « Il n'y a rien de plus excitant que de connaître l'amour de Dieu si profondément qu'elle se répand dans nos relations. » Frères et sœurs, perdons pas l'amour dans l'Église. Pardonnons comme Christ, sachant que c'est comme ça qu'on va connaître les véritables enfants de Dieu et l'état de notre cœur. On va prier. Seigneur Dieu, on a tous besoin aujourd'hui de s'humilier devant toi. Ne permets pas, Seigneur, qu'on ne pardonne pas. Ne permets pas qu'on élève des hommes au détriment de toi, Seigneur. Ne permets pas qu'on minimise le péché. Rends clair la situation, Seigneur. Rends clair comment qu'on doit agir en tant que peuple. On a pris une décision ensemble. Certains ne sont pas d'accord, certains sont d'accord, certains, on ne sait pas, Seigneur. Mais ma requête, Seigneur, c'est qu'on la vive ensemble dans l'amour. Donne la sagesse au diacre qui hérite en quelque sorte d'un fardeau, dans une situation complexe. Guide-le. Que le peuple, Seigneur, soit encourageant. Déjà cette semaine, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de questions, beaucoup de personnes que j'ai entendues qui font de la médisance. Moi, je ne suis pas là pour accuser personne, Seigneur. Humblement, aide-nous à ouvrir la parole et à se l'appliquer à nous-mêmes. Garde-nous de créer des divisions. Seigneur, c'est la fête des pères. On souligne les papas. Et même dans cette église, je sais qu'il y a des familles qui sont divisées sur la question de l'église. et je veux intercéder pour ces couples. Suscite des hommes de Dieu qui vont garder la paix dans leur foyer. Suscite des femmes de Dieu qui vont encourager leur mari à prendre le rôle qu'ils doivent avoir. Seigneur, aide-nous à te garder au centre. Et merci pour ton Fils qui nous pardonne. Et aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Amen.